la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette 44e émission de Par le bout de la lorgnette, une émission spéciale rentrée littéraire d'hiver, attention. Salut Héloïse.
Hello.
Alors tu n'es pas venue avec tes patins roulettes?
Non, mais ce soir je vais les endosser fièrement.
Voilà, ce soir on vous rappelle, si vous voulez aller rencontrer Héloïse et peut-être Pauline, aller à l'espace événement Georges Fraîche à la soirée de disco patin, il y aura tout le monde. Notre chère amie Elga vient nous voir, ça nous fait plaisir, merci Elga d'être là, salut.
Salut.
Valérie, non, Valérie t'es tout le temps là,
oui,
mais ça nous fait plaisir aussi.
Oui, puis pour Disco Patin, je vais m'en tenir à Patin juste ce soir.
D'accord, on invite tous nos amis adolescents qui écoutent cette émission à se rendre devant l'espace événement Georges Fraîche entre 18h30 et 19h, salut Pauline.
Salut tout le monde.
Alors Pauline, un petit rhume hein, aujourd'hui. Hein.
Je suis un peu endormie, pardon.
Eh bien, pour la peine, on va te laisser commencer. Juste avant, rentrée littéraire d'hiver, Héloïse. Ah, Héloïse
oui,
a quelque
non,
chose
mais
dans
je,
la
je
bouche.
Suis toute, oui.
Rentrée littéraire d'hiver, je ne savais pas qu'il y avait une rentrée littéraire en hiver.
Oui, il y a plusieurs rentrées.
Il y a printemps aussi.
Il y a septembre, printemps, effectivement.
Il y a automne.
Automne, c'est septembre, oui.
C'est septembre, oui. Il y a hiver et
là,
il y a été.
Il y a 300-400 romans qui sont sortis pour la rentrée d'hiver.
Dont des très bons que nous
des
avons présentés
bons,
dans cette émission. Un très bon roman, Pauline.
Ouais, un très très beau roman. Née contente à Oraibi de Bérangère Cornu aux éditions Le Tripode. Donc on est en Arizona, on ne sait pas trop quelle époque, on est sur les Mesas, c'est ces grands plateaux bordés de falaises, là, des plateaux un peu en hauteur et puis des falaises très abruptes.
Comme dans Coyote et comment
ouais,
il s'appelle l'oiseau là.
Enfin, Bip-bip.
Ouais, bip-bip. Bip-bip. J'ai imaginé ce genre de paysage, ça a l'air d'être ouais, à peu près ça. Et on est dans une tribu d'Indiens Hopi qui vivent bah, du coup sur différentes Mesas, ils sont répartis en plusieurs clans. Donc ouais, la période, on ne sait pas trop. À des moments, on voit de l'alcool, donc on sait qu'il y a déjà eu quand même la colonisation. Mais après, aujourd'hui, il y a 20 ans, il y a plus, aucune idée. On rencontre Taya Titawa. C'est une petite fille qui est née contente.
Tu elle parles vachement bien l'indien.
Hopi. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Moi, j'ai aimé le livre, alors je m'y suis mise un peu. Et donc, elle est née en riant, et c'est pour ça qu'on lui a donné ce nom, qui veut dire « celle qui salue le soleil en riant ». Et elle nous fait du coup découvrir tous ces mondes, je ne vais pas dire son monde, parce qu'il y a son monde, sa tribu, son quotidien, les coutumes, la vie dans la tribu, mais aussi tous les mondes un peu parallèles qu'il existe, les mondes un peu, on va dire, oniriques, les mondes d'esprit, les autres mondes qui existent au sein de sa tribu. Et en fait, on la rencontre à sa naissance, on la voit grandir, on la voit perdre son père, et puis résister un peu à l'envie de grandir, l'idée de se marier, l'idée de devenir une femme, et de quitter le foyer de sa maman. Voilà, on la suit quand même toute sa vie. Alors c'était très particulier comme roman, et là je dis pas très particulier en disant pas bien comme on peut dire d'habitude, mais en fait c'est un roman qui est ultra documenté. Au début, moi j'ai cru que c'était un peu un nouveau genre de roman, où c'était un roman documentaire raconté à la première personne, tellement je me croyais dans la tribu, avec eux, dans leurs coutumes, presque un roman anthropologique, finalement. Mais avec donc on apprend voilà, tout sur la tribu Hopi, avec cette jeune fille, et on apprend avec elle, puisqu'elle grandit, donc on apprend les traditions, tout est écrit de façon super limpide, c'est simple, mais c'est pas non plus simpliste, c'est pas ni idiot, ni niais. Il y a rien en trop, on n'a pas voulu nous montrer une tribu pittoresque qu'on va découvrir. Non, elle nous montre vraiment, on a l'impression que c'est un Hopi qui nous raconte sa vie de tous les jours, et ça c'est assez fantastique.
On apprend des choses comme des remèdes médicinaux, le calumet de la paix, des choses comme ça. C'est détaillé ou pas du
tout?
Non,
pas vraiment dans le détail, plus dans les traditions. S'il y a quand même la façon de vivre, il y a des moments où ça fume un peu, hein, mais
les prophéties, tout ça.
Voilà, ce genre de plutôt des coutumes et des rites. Et c'est à la fois absolument merveilleux comme bouquin, parce qu'il y a tout cet aspect, tout ce côté, plein de passages où on est dans ces mondes d'esprit un peu, et on a l'impression, on est vraiment complètement dans un rêve, on n'est plus dans juste de la lecture, on part avec elle, on va dans d'autres mondes avec elle. Il y a des passages extraordinaires, décrits, extrêmement bien décrits, on grandit avec elle, et c'est fou parce qu'on en ressort presque apaisé, comme si on avait vécu un moment avec eux et puis qu'on avait appris à vivre avec la nature avec eux, après appris à vivre avec les esprits, et c'est quelque chose d'hyper apaisant. Donc c'était un merveilleux roman que je conseille à tout le monde. C'est très très beau.
Très beau roman, une très belle histoire.
Est-ce que tu sais du coup si l'auteur qui est française a passé du temps avec une
tribu? J'ai essayé de chercher un peu, j'ai rien trouvé. Je pense qu'elle les a étudiées parce qu'il y a pas mal de photos à la fin. C'est pour ça aussi qu'au début j'ai cru que c'était plutôt un roman documentaire. Donc j'imagine qu'elle les a étudiées dans les livres, mais j'ai trouvé très peu de choses sur l'auteur elle-même. Donc j'ai pas réussi à savoir comment elle s'était documentée.
Et elle donne pas une liste de livres qu'elle aurait pu étudier, un truc comme ça ou...
À la fin, il me semble pas.
Dans l'histoire, ils restent en autarcie ou ils sont confrontés à un moment donné à la civilisation occidentale?
On reste dans la tribu, et même dans la vie de cette petite fille qui est un peu à part.
Jusqu'à quel âge on part de sa naissance? Jusqu'à quel âge on suit l'histoire de cette petite fille?
À mon avis, elle doit avoir dans les 14 ans.
Ah.
Est-ce que tu verrais ça comme un livre militant pour la cause indienne? On en parle pas mal en ce moment, pour avec les oléoducs, etc. Et est-ce que ça serait un témoignage en faveur de ce peuple ou...
Alors, je pense que ça peut être vu comme ça. Je le ressens pas écrit dans cet esprit-là, plutôt dans l'esprit de faire des vraiment... C'est pour ça que ça peut aussi avoir ce côté-là, de faire découvrir un monde et de faire découvrir un monde plein de rêves, entre guillemets, pour nous, ça pourrait être des rêves. Pour eux, c'est des habitudes, c'est leur vie de tous les jours, de voyager dans ce monde, d'incarner des esprits, d'avoir tous ces rites qui rythment l'année. Enfin, mais pour nous, ça a un côté de rêve et de rythme de vie très apaisant, très en lien avec la nature. C'est très beau.
As-tu installé un tipi dans ton salon pour dormir maintenant?
Ils n'ont pas des tipis, eux.
Ah. Ils ont des maisons.
Des petites cabanes.
Attends, les Indiens, ça vit dans des tipis. Hein. Excuse-moi.
Ça dépend lesquels.
Pas loin, c'est quoi.
Il y a beaucoup de personnages. C'est une tribu où...
Oui, il y a pas mal de personnages, d'autant qu'elles se baladent de tribu en tribu.
Ah.
Mais on suit le fil. On n'est pas perdu. Moi, j'ai été un peu perdue, mais même elle, en fait. Donc, je pense que c'est fait un peu exprès. Entre les tribus, à quelle tribu elle appartient, à quelle... elle a un petit moment de crise, entre guillemets, identitaire. Hein, ça va pas jusque-là, mais... où elle sait plus à quelle tribu vraiment elle appartient. Donc là, on est perdu, mais je pense que c'est l'objectif du bouquin à ce moment-là.
Appelle à une suite ou pas, vu que ça se termine à 14 ans ou c'est... Non, elle est morte, je raconte.
Non, là, on est arrivé au bout de sa quête.
Pas un drame, c'est vraiment...
C'est un superbe livre duquel on ressort très, très bien.
Très bien, Pauline. Tu place la barre très haute pour commencer cette émission. Rappelle-nous l'auteur, le nom.
Mécontente à Oraibi, Bérangère Cornu, au Tripode.
Allez, Valérie, donne tout.
Mais ça va être très dur parce que moi, du mien, on n'en ressort pas indemne, mais on n'en ressort pas apaisé.
Ah, ben c'est bien, il faut de tout.
Voilà, c'est ça.
Il y a des prix littéraires en hiver, non, Héloïse?
Elga. Contre moi, mais non. Je ne pense pas.
Non. Tout sort à l'automne et après il y a des petits prix.
Oui.
Mais gros trucs sortent de toute façon en septembre, la rentrée de
l'été. Parce qu'après, il y a le prix du livre inter qui est un peu plus tard, mais c'est plus au printemps. Donc, du
ouais,
coup,
c'est ça.
Le prix non, de la gare SNCF, Valérie. Pourquoi ils le sortent à ce moment-là alors? C'est qu'ils se disent, je vais éviter la cohue de la rentrée littéraire pour sortir mon ouvrage.
Non, mais c'est un moment phare aussi pour.
C'est après Noël, où à Noël, il n'y a pas beaucoup de publications, et du coup, ils en sortent en janvier, là, ça repart.
Ça peut faire la différence, oui, quand on sort un livre à cette période. Après, il y a les vacances de février qui arrivent, les gens lisent pendant les vacances. Mmh. Donc, c'est un bon moment, ouais.
Pour recommencer l'année, quoi.
D'accord, merci. Valérie.
Bien, moi, je vais vous parler de. Pardon. C'est Pauline qui déteint. Je commence à m'enrhumer.
On va tous finir enrhumés. Merci, Pauline.
Merci, Popo.
Tu as le roller, là. Après le disco roller, les 50 personnes qui vont venir vont être enrhumées à cause de nous. Épidémie en Lozère.
Et on va tous se casser le pouce aussi.
Voilà.
Quel beau programme.
N'est-ce pas? Sinon, vous pouvez aussi faire des patins. Voilà.
Bon, tu vas arrêter, Valérie.
C'est un message, c'est un message pour Eric.
Mais non, mais c'est pour dire justement que je mets des petits patins sous mes
Eric,
chaussons.
Eric, nous avons un problème, Eric.
Non, mais vous avez,
il faut que tu en fasses plus à la maison, Eric.
Vous avez l'esprit tordu. C'est juste que je vais mettre mes patins sous mes charentaises et je vais rester tranquillement chez moi. Mais
vous avez d'un coup, ça perd allez, l'image.
Les petits patins.
Mais bien magnifique. Sûr.
Un jour, ma mère, dans mon adolescence, est revenue avec des patins parce qu'on avait marché à des traces. Quand
bien sûr.
Ouais, c'était atroce. Mais ça a duré 3 mois.
Mais moi, je fais ça. Comment tu crois que j'ai des sols brillants chez moi?
Chez toi, c'est une catastrophe.
C'était l'astuce de Valérie.
Tu rigoles? T'as vu mon plancher, comment il brille?
Ouais. Mais non, on voit pas ton plancher. Il y a trop de choses dessus.
Bon, tout ça pour vous parler de La Reine en jaune. Donc c'est un recueil de plusieurs nouvelles, donc de Anders Fager, qui est c'est le deuxième son deuxième recueil qui est traduit en France. Et l'histoire donc c'est à Trossen. C'est des résidents d'une maison de retraite, enfin une des histoires, qui se regroupent au troisième étage de la maison de retraite pour faire des rites venus d'un autre âge. Il y a aussi les deux frères amis, Zanoche, qui escortent une grand-mère pour un très long voyage, une grand-mère qui gronde parfois ou qui montre les crocs. Ensuite, on rencontre Mai, l'artiste, une femme bafouée, le chef d'œuvre ultime, ne peut se concevoir sans sacrifice.
Chef d'œuvre, pas chef d'œuvre. Pardon, excuse-moi. On est dans une émission littéraire, je tiens à ce que
oui, mais c'est nous la parlons lecture, bien pas de l'oral. Français. C'est un chef d'œuvre, si j'ai envie. Donc voilà. Et elle imagine pas en fait son œuvre ultime sans commettre un sacrifice. Et à Botskar, dans la baie plongée dans les ténèbres, quelque chose émerge des flots. Voilà. Donc on est dans un milieu un peu refermé, un peu horrifique, qui fait un petit peu peur. Et il faut savoir que Anders Fager, il est un ex-geek, un ex-punk, un ex-cetera, un ex-dyslexique, qui a eu un parcours cabossé. Et dans son écriture, en fait, on retrouve tout à fait toutes ces cabossures et ces nouvelles sont complètement déjantées. Donc on a cinq nouvelles avec des atmosphères totalement différentes. Donc on est dans le bizarre avec les petits vieux qui vont se rencontrer régulièrement et ils semblent pouvoir être des grands manipulateurs puisqu'ils manipulent leurs docteurs, leurs infirmières. Et ils savent tous les tenants et les aboutissants sur tous les personnages qu'ils mettent en scène. Ils jouent à créer des jeux dans leur maison de retraite et c'est super en fait. Ils vont faire des jeux un peu qui vont nous rappeler la sorcellerie, qui vont faire appel à des démons. Enfin, c'est assez improbable. Et en fait, le but de tous ces jeux, ça va être de se maintenir en vie. Parce qu'ils se rendent compte qu'au troisième étage en fait, de cette maison de retraite, quand ils font ça, tant qu'ils pratiquent un peu cette espèce de spiritisme, ils ne meurent pas. Voilà. Donc, c'est des lieux comme ça. Donc,
sur les cinq nouvelles.
Hein. On les retrouve. Là, il y a les... À deux reprises, on va retrouver dans la maison de retraite ces petits vieux. Mais en fait, on va retrouver aussi des liens avec les autres nouvelles. Et c'est là où c'est hyper intéressant parce que les nouvelles peuvent presque se lire indépendamment l'une de l'autre. Mais après, on peut aussi les lire tout ensemble. C'est ambiance, la maison de retraite, c'est ambiance crochet de boucher suspendu au plafond, quoi. Voilà.
Délicatessen.
C'est ça, délicatessen en plein.
Et c'est fantastique, il y a une grosse part de fantastique.
Ouais, un petit peu, mais c'est très, très léger en fait. On ne se rend pas compte que ça part dans le fantastique.
Et c'est dérangeant ou
ça fait
peur?
Ben,
peur. Moi, j'ai pas eu peur comme quand on avait fait sur le fantastique. Vraiment, j'avais flippé. Mais ouais, ça bouscule un peu parce qu'il y a un peu de bon. Il y a le côté glauque, puis il y a aussi le côté un peu surnaturel, enfin le côté un peu spiritisme. Et comme c'est ça a affaire à des gens comme vous et moi, c'est ouais, ça me fait un peu magie noire. Enfin, on se rend compte que les petits vieux, ils sont adeptes de ça. Enfin. Sachant que la maison de retraite, ils sont capables d'interrompre une séance de magie noire pour aller changer une couche. Enfin, c'est
oui, ça. C'est drôle en même temps.
Oui, voilà, ouais. C'est ça. C'est grinçant, en fait, le livre. Après, on a donc notre artiste Maï qui, elle, en fait, c'est une artiste, en fait, qui fait de l'art photographique et qui fait une grande sensation avec une expo qu'elle a appelée Porn Star, et où elle est à la fois photographe, mais aussi elle se met en scène.
Modèle.
Donc, voilà, c'est ça. Et c'est très trash, les photos qu'elle fait. Donc, elle s'attire autant d'admirateurs que de personnes qui pourraient la détester. Et il va y avoir un de ses mécènes, en fait, qui s'appelle l'association Carosa, où on découvre que, de nouveau, c'est géré par des petits vieux, qui lui achètent ses œuvres, mais qui lui disent, en fait, que, grosso modo, son porn star, c'est un peu léger, qu'elle pourrait quand même aller plus loin. Cette mamie avec qui elle a contact rentre dans son esprit petit à petit et elle va vouloir aller plus loin. Et on ne sait pas jusqu'où elle va aller. Et comme dirait souvent Ludovic, on n'en ressort pas indemne. C'est... voilà, et c'est... En fait, elle va aller très loin dans l'art... dans l'art de suite à son porn star, si bien qu'on va la retrouver après dans une autre nouvelle où elle sera internée.
Ah oui.
Mais où elle continue à être manipulée quand même malgré tout par cette association de vieilles personnes. Voilà. Et après ça c'est la nouvelle, j'allais dire la plus contemporaine, mais il y en a une autre, moi celle qui m'a le plus plu, c'est par contre ça se passe dans une île entre la Finlande et la Suède, et c'est une opération de l'armée suédoise qui va intervenir sur un petit lopin de terre. L'armée est convaincue que ce lopin de terre, en fait, est habité par des Russes. Parce qu'ils perçoivent de l'activité, ils perçoivent... Chaque fois qu'un bateau essaye de s'approcher, il y a comme des mines sous-marines qui explosent. Et en fait, quand ils vont débarquer sur cette île, il n'y aura ni Russes, ni hommes ordinaires, mais tout un tas d'étranges phénomènes qui remettent en question la totalité de l'opération. Et là, ce texte, en fait, ça va ouvrir de la violence, de la haine xénophobe, des traumatismes liés à la guerre. C'est un texte qui est monstrueux, en fait. Là, par contre, qui dérange et par son et par ce qui se passe et par le contenu, en fait. Enfin, on se rend compte que finalement, le méchant, c'est peut-être pas celui qu'on pense. Enfin, c'est... voilà. Ça, c'est effrayant.
Donc ça se passe pas uniquement dans la maison de retraite.
Ah, non,
des
non,
nouvelles.
Oui. Non, la maison de retraite c'est un endroit.
C'est un endroit.
On a l'exposition de Mike qui est un autre endroit. On a le périple d'une grand-mère qui est sordide avec ses deux petits-fils qui à travers l'Europe, donc qui est sordide aussi. C'est voilà, le voyage c'est du Lovecraft en fait.
La nationalité de l'auteur Andrés.
Il est de Suédois.
Alors, Europe de l'Est, non ?
Ouais, il est
du Nord.
Ouais,
ah, pardon,
suédois.
Je me trompe.
Lui, il est suédois. Ouais. Voilà. Et c'est. En fait, il a apparemment quatre livres dans ce style-là. Donc, il y en a déjà un qui est sorti.
Les Furies de Vorace.
Ouais, et là, c'est le deuxième. Ouais.
Et donc, tout ça chez Mirobol.
Ouais. Très bien. Alors, si vous reste encore de l'argent après avoir acheté le livre de Pauline, vous pouvez acheter celui de Valérie.
Moi, il est peut-être pas pour tout le monde parce qu'il est assez borderline sur l'écriture. Il est dérangeant, mais ça fait du bien. Enfin, c'est un bijou de noirceur.
Très bien. Voilà. C'est très beau. On va terminer sur cette phrase. Merci. Elga, on passe ton tour parce que tu n'as lu qu'un livre. Tout comme moi, tu vois, on passera à la fin, écoute, hein, on est punis. Héloïse.
Alors moi, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Le gardien des choses perdues, qui est sorti il y a 2 jours, qui a été écrit par Ruth Hogan, qui est une auteure de nationalité britannique. C'est son premier roman et c'est chez Actes Sud. Voilà, donc là, on ne sera plus dans la noirceur, on sera vraiment dans du positif, mais du bon positif. Donc, le début, donc les années 70, Anthony et Thérèse sont très amoureux. C'est un amour sans ennui, plein de surprises, de tendresse. Ils sont vraiment très, très mignons, très beaux à lire. Et ils vont bientôt se marier. Seulement, Thérèse meurt subitement dans la rue, AVC, crise cardiaque, on ne sait pas. Elle meurt. La seule chose qu'elle a fait promettre à Anthony, non pas avant de mourir, mais elle lui a fait promettre dans sa jeunesse, en fait, c'est de bien conserver toute sa vie un médaillon qu'elle lui a donné, un médaillon représentant Sainte Thérèse. Et donc, le pauvre Anthony perd ce médaillon le jour de la mort de Thérèse. Mm-hmm. C'est un vrai crève-cœur. Et du coup, Anthony, à partir de ce moment-là, il se lance un objectif dans sa vie. C'est de recueillir tous les objets perdus qu'il trouve dans la rue, dans les parcs, sur la plage. Il recueillit tout ce qu'il trouve, que ce soit un petit élastique, un bouton, un gant. Enfin, vraiment, c'est une sacrée collection. Et il se donne comme mission d'essayer de retrouver les propriétaires de ces objets perdus.
Génial.
Pour en fait qu'il n'ait pas le cœur brisé comme lui l'a été en perdant le médaillon de Thérèse. Donc vous imaginez bien que c'est très dur de retrouver toutes ces personnes.
Sainte Thérèse, on sait qu'est-ce qu'elle protège ? Parce qu'aussi bien elle protège contre la perte d'objets. Ou...
Alors, tout aussi bien, tu vas spoiler la fin du livre.
C'est Antoine de Padoue qui... Non ?
Sainte Thérèse, on ne sait pas ? Valérie, toi qui as tes enfants dans le privé.
Aucune idée.
On ne sait pas ? D'accord. On va chercher.
Ils ne font pas assez d'éducation.
Oui, mais ça peut être intéressant, effectivement. Je n'ai pas cherché. Donc du coup, il est écrivain aussi, ce cher Anthony, et il écrit tout ce qu'il imagine par rapport à ces objets. Ça donne des recueils de milliers de pages de nouvelles, en fait, sur chaque objet qu'il a recueilli, parce qu'il a des milliers d'objets dans son petit bureau, dans son cabinet de curiosité. Donc voilà, le récit est entrecoupé, en fait, de ce qu'il a imaginé par rapport aux objets aussi. C'est bien agréable.
C'est une fiction ?
Oui.
D'accord. Ça aurait pu être une histoire.
Mais après, voilà, c'est des fictions dans la fiction, finalement, les nouvelles d'Anthony.
D'accord.
Donc du coup, là, je vous parle juste des 30 premières pages. Ensuite, Anthony, c'est un vieux monsieur. Il a envie de rejoindre Thérèse. Il a envie de partir. Donc il laisse sa maison et toute sa collection d'objets et tout ce qu'il possède à son assistante depuis 10 ans. Un peu sa femme de ménage, un peu. Elle fait la cuisine aussi. Elle s'appelle Laura.
Tu as parlé de Lisieux ?
Thérèse de Lisieux, non, mais vas-y.
Oui, non, parce que Sainte Thérèse vient de Lisieux.
Et donc, est-ce qu'elle protège quoi ?
Je n'y suis pas encore.
Ok, c'est du teasing. Donc, il lègue tout à sa mort à Laura et il lui donne la mission de continuer sa quête et donc de retrouver les propriétaires des objets en sachant que lui, il n'a jamais réussi à restituer aucun des objets qu'il avait retrouvés.
Absolument rien. Il n'a jamais...
Alors, c'est... Il lui donne cette tâche, peut-être qu'il se dit, voilà, la jeunesse, d'autres moyens, elle pourrait, elle, réussir dans moi ce que j'ai pas accompli dans ma vie. Et donc, à partir de ce moment-là, donc Laura, l'assistante, Freddy, le jardinier d'Anthony, et Sunshine, qui est une petite voisine atteinte d'autisme, vont tous les trois s'atteler une équipe de choc pour accomplir cette tâche laissée par Anthony, tout en gérant leurs problèmes personnels à la fois. Et donc, en parallèle, on suit l'histoire de Nice, qui, un jour de 74, a trouvé un médaillon de Sainte Thérèse dans la rue.
D'accord.
Voilà. Donc, c'est une histoire extrêmement touchante qui fait vraiment... Ça fait un bien fou. Il est sorti il y a 2 jours, je l'ai lu en 2 jours. Ça m'a vraiment... J'avais envie de savoir ce qui se passait. C'est très inventif, c'est frais, c'est drôle. Le récit, il est vraiment palpitant comme un cœur, tantôt battant la chamade, tantôt exalté et à toute allure, des fois fatigué, de tristesse. Enfin, il y a toute une palette d'émotions magnifiques. Donc voilà, c'est un premier roman, comme je vous l'ai dit. C'est Roussegan, elle l'a écrit pendant qu'elle était malade. Elle était atteinte du cancer. Et du coup, elle a écrit pendant sa maladie. Et c'en est étonnant tellement c'est positif et c'est pas cuculapraline, quoi. Et vraiment, je le conseille vraiment à tous.
Elle est morte de la tuberculose, Sainte Thérèse.
Et qu'est-ce qu'elle protège ?
Alors, j'y arrive.
Parce que là, j'ai fini, Ludo.
Oui.
Va falloir être plus réactif. Hein.
Alors,
peut-être qu'elle protège rien, c'est juste un médaillon avec.
Oui, voilà. Ouais,
mais les saints ont tous un truc, non, qui protège ou qui est un peu leur spécialité, non ?
Elle est reconnue protectrice des jeunes en situation difficile.
Bah, c'est peut-être ça.
D'accord, bah très bien.
Elle avait un lourd passé.
Je ne sais pas, je n'irai
non,
pas.
Non, pas Sainte Thérèse.
Ah. Thérèse.
Non, Thérèse, oui.
Non, c'était une jeune femme très vivante, très exaltée, qui n'avait pas de souffrance particulière dans sa vie, non.
Peut-être parce que ça s'appelait Thérèse, hein, quoi.
Oui, tout simplement, je pense.
Thérèse, comme diraient les bronzés.
Non,
Père Noël est une ordure. Ok, Actes Sud, très bien. Toujours aussi bon, Actes Sud.
Oui. souvent. Mmh.
Par contre, la pochette, bof, bof. Hein.
Oui, Elgan n'est pas fan de l'image, oh non, mais ça effectivement. Va de bon, après,
moi, je suis d'accord avec...
Ça fait cucu, en fait, la couverture.
Alors que je le précise, le livre n'est pas cucu. Ouais. Oui, bon, sur la couverture, effectivement, il y a un gramophone sur fond pastel outre-mer. Bon, après, voilà, le gramophone, ça signifie aussi quelque chose par rapport à l'histoire. Donc, pourquoi pas.
Bon. Ouais. Why not? Allez, Elga, tu veux prendre la parole, je te la donne.
Super. Moi, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Le Papillon, écrit par Andrus Kivirek et publié en France au Tripode, donc à cette rentrée d'hiver. C'est son premier roman qui est paru en Estonie en 1999. Et Andrus Kivirek, en fait, on le connaît pas mal en France parce qu'il a écrit L'homme qui savait la langue des serpents, qui avait obtenu le Grand Prix de l'imaginaire en 2015, je crois, un truc comme ça. Donc, il avait été très remarqué à sa parution. Donc, le premier roman d'Andrus. Et on va suivre une voix qui s'élève d'outre-tombe. C'est un homme qui, dès les premières pages, nous dit qu'il est décédé et qui va nous raconter son histoire. C'est un jeune homme qui était destiné à devenir serrurier. Et en fait, un jour, dans les années 1900, il a rencontré un couple extravagant qui lui offre une place de comédien au théâtre l'Estonia à Tallinn, donc au début du siècle. Et il commence son histoire et au bout de 15 pages, il nous dit « Bah en fait, là, j'ai dit plein de bêtises. J'ai raconté plein de mensonges et vous vous en êtes pas rendu compte. » Donc, il nous interpelle comme ça et on sent qu'il va nous mener en bateau, mais en même temps, il nous entraîne dans son histoire, dans l'histoire du théâtre. Et ça va donner lieu à une fable imaginaire avec des petits éléments de fantastique où il y a une femme oiseau qui se déploie un moment, qui devient la mère de sa femme. Puis un jeune homme qui va devenir un loup-garou pour une nuit et leur ramener une dinde alors qu'il crève de faim. Enfin, voilà. Il y a des petits éléments d'imaginaire qui sont dilués et en même temps qui arrivent toujours dans des situations un peu particulières où on a l'impression qu'il y a un peu d'alcool qui coule derrière. Donc voilà, on n'arrive pas à savoir si c'est vrai et tout. Et en même temps, le narrateur nous dit bah là, j'ai encore dit des bêtises, quoi. Et vous croyez, vous êtes vraiment sots, quoi. Donc voilà. Et c'est génial, le théâtre est au centre de l'œuvre, que ce soit par rapport à la salle l'Estonia, donc qui est leur théâtre estonien, mais en même temps, vu que l'Estonie est sous domination russe, il y a aussi une histoire un peu engagée. Et le théâtre comme un art et ses fonctions cathartiques, mais divertissantes. Il parle de la Première Guerre mondiale, par exemple, et il dit « On devait continuer à jouer parce que, de toute façon, les gens voulaient nous voir jouer, voulaient rire, voulaient pleurer, mais dans une toute autre situation, devant des gens qui meurent, mais dignement, et pas dans une tranchée. » C'est assez nostalgique, jamais pathétique. Et voilà, et ce personnage qui nous raconte sa vie, qui va traîner de donc sa femme Erika, qui aussi symbolise le papillon parce qu'elle vole, elle est très éphémère, elle volait dans la pièce et compagnie.
Non, c'est sa mère, c'est un oiseau.
Sa mère est un oiseau et elle est présentée comme un papillon.
Non, mais voilà. Qu'elle vole.
Donc elle vole, forcément. Et après, il va parler du chef du théâtre, d'un autre homme, enfin voilà. Ça passe de l'un à l'autre, ça nous raconte un peu leurs petits travers, et leurs grandes idées, et voilà. C'est cette troupe de théâtre qui est vraiment géniale, quoi. Et en même temps, il y a aussi toujours une métaphore de la mort qui est représentée par un chien gris qui rôde autour du théâtre et où il nous rappelle quand Alterman meurt, quand Erika va mourir, où il y a cette métaphore. Mais c'est toujours très, je sais pas, très, très nostalgique, quoi. On va jamais tomber dans « c'était dur, il est mort, gna 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 ». C'est toujours « bon, bah, il est mort, mais on doit continuer à jouer, on a toujours une mission à travers le théâtre ». Donc voilà, un très bon premier roman. Et alors, j'ai pas lu L'homme qui savait la langue des serpents, mais apparemment, c'est génial.
Ah oui, moi, c'est un roman qui m'a absolument marqué. Là, je l'ai lu en janvier. Ça fait, c'est très long, mais ça se lit en une traite, tellement on a envie de savoir. C'est Andrus Kivirek. C'est quelqu'un qui est très fier de sa langue. L'estonien, c'est une langue qui a résisté à toutes les occupations, que ce soit allemande ou russe. C'est vraiment une langue très ancienne. Il en est très fier. Et du coup, ça donne aussi une écriture géniale.
Il parle un
géniale.
Peu aussi de l'Estonie et des fables qui sont dans les traditions. Alors, par contre, il n'en cite pas certaines en particulier, mais il parle beaucoup de... eux, leurs troupes, ils ne sont pas forcément bons et ils s'en fichent d'être de très bons comédiens, mais ils veulent un peu faire revivre cette... ces fables d'antan, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais qui ont toujours aussi le pouvoir cathartique du théâtre, quoi. Donc, c'est assez intéressant de voir ce destin estonien, et en même temps, qui paraît très, très léger, mais on se le sent quand même, c'est assez particulier, quoi.
Non, c'est à découvrir, ouais, vraiment, cet auteur.
Et en plus, moi, j'ai lu les deux premiers. C'est assez court. Donc ça, c'est génial, quoi. Enfin...
Donc ça, c'est son premier, hein.
Ça, c'est son premier roman qui vient d'être traduit. Je suppose que maintenant qu'ils ont découvert L'homme qui savait la langue du serpent, ils vont essayer de retraduire ses autres œuvres. Parce qu'en Estonie, il a écrit mais une tonne de romans, quoi. Mm. Et en France, du coup, il n'y en a que 3 traduits.
Il y en a 3 et moi, j'ai lu les 2 autres. Du coup, je n'ai pas lu Le papillon. Mais L'homme qui savait la langue des serpents et Des groseilles en novembre. Et c'est génial, vraiment.
Avec une prose très agréable.
C'est un jeune auteur ou pas du tout? C'est quelqu'un d'assez âgé qui est venu à l'écriture sur le tard?
Non, il est pas si jeune.
Il a pas 50 ans, non?
Ouais. Hum. Et du coup, celui-là en 99, donc...
Ah, en 99 déjà, ouais.
Il date de 99, celui-là, donc.
Ok.
Je pense qu'il avait une... Ouais.
Mais c'est une vraie fierté en Estonie, cet auteur. Ils en sont très fiers. Hum.
Du coup, il a écrit que 2 livres?
Alors non, il en a écrit beaucoup, pas mal en estonien.
Et 3 sont traduits en France pour le moment. Et je pense que le tripode va s'attacher à le traduire et en tout cas à le faire vivre en France, quoi.
Ah ben si, ça marche bien, oui, il n'y a pas de raison. Merci beaucoup Helga. Une question au hasard. Tiens Pauline, bim. Pauline, l'Estonie a 2 frontières terrestres. Si tu m'en donnes une des 2, j'envoie la chanson.
L'Estonie.
Bien joué Pauline, c'est bravo. Parti. Allez, on se retrouve après.
Single now, got no ring on his finger now. I never let another chick bring me down in a relationship. Save it, bitch, babysit, you make me sick. Superman ain't saving shit. Girl, you can jump on Shady's dick. Straight from the hip, cut to the chase. I tell a motherfucking slut to her face. Play new games, say new names. Ever since I broke up with what's her face, I'm a different man. Kiss my ass, kiss my lips, bitch, why ass? Kiss my dick, get my cash. I'd rather have you whip my ass. Don't put out, I'll put you. Get out, I'll push you out. Puss blew out, popping shit with piss on fire to put you out. Am I too nice? Buy you ice. Bitch, if you had, wouldn't buy you life. You trying to be my new wife? What, you Mariah? Fly through twice. And I do know one thing, no. Bitches, they come, they go. Saturday through Sunday, Monday. Monday through Sunday, yo. Maybe I'll love you one day. Maybe we'll someday grow. Till then, just sit your drunk ass on that fucking runway, ho. It's no secret, everybody knows. Yeah, we fuck, bitch, so what? That's about as far as your buddy goes. We'll be friends, I call you again. I'll chase you around every bar you attend. Never know what kind of car I'll be in. See how much you'll be partying in. You don't want that, neither do I. I don't wanna flip when I see you with guys. Too much pride, between you and I. Not a jealous man, but females lie. But I guess that's just what sluts do. How could it ever be just us two? I never loved you enough to trust you. We just met and I just fucked you. But I do know one thing, no. Bitches, they come, they go. Saturday through Sunday, Monday. Monday through Sunday, yo. Maybe I'll love you one day. Maybe we'll someday grow. Till then, just sit your drunk ass on that fucking runway, ho. Big stars all day. I don't see what the big deal is anyway. You're just plain old Marshall to me.
Ooh yeah, girl, run that game.
Haley Jade, I love that name. Love that tattoo, what's that say? Rotten pieces, that's great.
First off, you don't know Marshall at all, so don't grow partial. That's ammo for my arsenal. I'll slap you off that bar stool. There goes another lawsuit. Leave handprints all across you. Good loaded, boy, hey, you must be gone. Can't grab, end up with 2 back hands. Put anthrax on the 10 packs and slap you till you can't stand.
they come, they go. Saturday through Sunday, Monday, Monday through Sunday, yo. Maybe I'll love you one day, maybe we'll someday grow. Till then, just sit your drunk ass on that fucking runway, ho. But I do know one thing, no. Bitches, they come, they go. Saturday through Sunday, Monday, Monday through Sunday, yo. Maybe I'll love you one day, maybe we'll someday grow. Till then, just sit your drunk ass on that fucking runway, ho.
Allez, on est reparti avec cette chanson excellente choisie par Héloïse. Héloïse qui a toujours des très bonnes chansons, c'est Asmos, avec un featuring d'Eminem et de Duke Pearson. C'est plus un mixte en fait qu'un featuring. Il a repris les voix d'un artiste, la musique d'un autre, il les a mixées. Voilà, allez, je repars. C'est moi qui vais présenter mon livre de Joseph Incardona, c'est ça ? Hein, Héloïse, toi qui as lu le livre ?
Incardona, oui, mais de quelle nationalité est-il ?
Alors, il est suisse, pour faire plaisir à notre ami Nico, qui a disparu des écrans radar, il est suisse. Ce roman s'appelle Chaleur, il était édité chez Finitude, alors je ne connaissais pas cette maison d'édition.
Une petite maison d'édition,
qui est à Bordeaux.
Qui est à Bordeaux. Eh ben, bravo à elle, parce que c'est un très bon roman de vacances, dans le sens où, si vous êtes feignant comme moi, que vous aimez des romans qui se lisent très vite, écrits avec des phrases courtes, ben voilà, c'est totalement le type de roman qu'il vous faut. C'est un roman, c'est une comédie dramatique, pourrait-on dire, Héloïse.
Oui, c'est bien choisi comme mot, ouais.
Voilà. Pour faire appel au cinéma. Chaleur nous parle en fait, alors j'ai pas écrit de notes parce que je l'ai fini hier soir donc j'ai tout en tête. Il nous parle d'Einola. Einola, H-E-I-N-O-L-A, qui est Valérie ?
Une cousine d'Enola Gay.
Alors ça pourrait, le livre commence comme ça. Einola, ça sonne comme le nom d'une actrice de porno alternatif scandinave. Tanya Hansen, Sanna Blon, Katja Keene, on n'est pas loin et Einola est une ville de Finlande. Et dans cette ville de Finlande, que se passe-t-il ? Il se passe le championnat du monde de sauna, d'où le titre Chaleur.
C'est ça.
Parce qu'il faut savoir que dans cette ville, ils s'ennuient un peu. Les hivers sont longs, les étés sont courts ou ne sont pas. C'est un peu la Lozère de la Finlande. Et par conséquent, eh bien, suite à cet ennui latent, ils décident d'organiser des championnats du monde, comme par exemple le championnat du monde de portée d'épouse, le championnat du monde de football en marécage, le championnat du monde d'air guitare, le championnat du monde de lancer de bottes, pointure 43 pour les hommes et 38 pour les femmes. Le championnat du monde d'écrasement de moustiques, arrêté en 1999 sous la pression des animalistes. Le championnat du monde de mangeurs de piments, de cueillettes de baies, de la pêche sur glace. Mais comme c'est en été, ben, la compétition se déroule sur des plaques de polystyrène percé. Le championnat du monde de marche avec une barre à mine ou encore de lancer de téléphone portable. Et enfin, le championnat du monde de sauna. Donc on va suivre dans ce championnat du monde deux personnages. Alors tout d'abord, un russe, oui Valérie.
Ça consiste en quoi un championnat du monde de sauna ?
Alors ça consiste avec à peu près 150 concurrents venant de 70 pays du monde de s'enfermer dans un sauna à 110 degrés Celsius avec de l'eau qui est jetée dans le sauna toutes les 30 secondes pour faire remonter la chaleur et faire des éliminations. Les premiers qui sortent, ben, y en a deux qui restent, il y en a deux qui restent, etc. jusqu'à la finale avec 5 qui restent. Et celui qui reste sans sortir du sauna ou sans être évacué par les médecins, eh ben, gagne le championnat du monde.
Mais
qui reste
faut savoir la température, 180 degrés pour les hommes.
110 et... Celsius.
Pour les hommes ?
Pour les hommes.
Pour les femmes, c'est un peu moins.
Pour les femmes, coup, c'est un peu moins.
180, alors... tu vas fort, toi.
Non, mais je l'ai lu aussi, et ça m'était resté 180. Mais
110 degrés Celsius. Alors, c'est marrant parce qu'à la fin, c'est un championnat du monde qui existe vraiment, qui a existé vraiment. Il y a le règlement officiel, donc la température de départ est de 110 degrés Celsius. Un demi-litre d'eau est versé sur le poêle toutes les 30 secondes. L'absorption d'alcool est interdite avant et pendant la compétition. Les concurrents doivent se laver au préalable et enlever toute crème ou lotion, etc., etc. Deux personnages principaux dans ce livre, tout d'abord Igor Azarov qui est un petit homme d'1m59 pour 58 kilos, c'est un russe retraité de l'armée russe qui a fini trois fois deuxième de ce championnat du monde qui a lieu tous les ans et il a fini deuxième derrière Niko Tanner, le champion finlandais qui est une star du porno alternatif finlandais. Donc qui lui mesure plutôt 1m90 pour 88 kilos. Je perds mes notes. 1m90 pour 80 kilos et qui a terminé 3 fois champion du monde devant Igor.
Alors, quel est son secret ?
Il est plus fort.
D'accord.
Voilà, tout simplement. Et donc, Igor se dit, sur ce championnat du monde, ça sera mon dernier, je vais gagner. Car on découvre que ce pauvre Igor a un cancer de la prostate. Et au lieu de se soigner, il se dit, avec son médecin russe, de toute façon, j'ai une fille, mais on se voit plus. Ma femme est morte parce que elle a eu des problèmes avec l'État russe. Elle a été considérée comme... Héloïse.
Oui, c'est parce que lui, il faisait partie du KGB.
Du KGB. Elle aurait trahi, elle a trahi la Russie. Donc... lui, il a dénoncé, il est décédé, donc il a rien à perdre, il a plus de famille, il se dit, je reste jusqu'à la fin dans le sauna, pour gagner, c'est mon but ultime. Et donc on suit les péripéties de ces deux personnages. Il y en a 2-3 autres qui se greffent, qu'on voit arriver au fur et à mesure. Un pasteur suédois, adepte de relations sexuelles quand même. On suit un Turc, parce que les Turcs aiment les saunas quand même, faut le savoir. Et un outsider qui arrive sur la fin, qui est un peu imbu de sa personne et qui arrive dans l'histoire pour gagner ce championnat du monde. Donc voilà, on suit les phases de qualification. On suit les demi-finales, on suit la finale et surtout on voit ces deux personnes qui finalement s'admirent l'une et l'autre parce que ça fait 3 ans qu'elles se suivent, qui sont résistantes alors qu'elles n'ont aucun rapport en commun et qu'elles veulent à tout prix se battre l'une et l'autre. Donc on les suit avant la compétition, pendant la compétition où elles vont boire un coup au bar, leur préparation dans les chambres, le champion du monde finlandais qui envoie des prostituées voir le russe pour essayer de le fatiguer avant la compétition. C'est extrêmement drôle et ça se finit dramatiquement. Je vous raconterai pas bien sûr la fin et on arrive à la fin avec une note de l'auteur qui dit « Cette histoire est une libre adaptation de ce qui s'est passé à Heinola en Finlande le 8 août 2010. J'ai modifié certains aspects du règlement du championnat, imaginé un déroulement différent de la compétition officielle afin de les adapter de cette fiction. Les personnages sont les miens et ne sont pas les protagoniste du fait divers. Je leur ai inventé une vie un passé. Et en fait, c'est une vraie histoire qui s'est déroulée. Sauf que l'auteur donc a créé en amont l'histoire de ces personnages sans les connaître. Donc il s'est basé sur le physique, sur ce qui s'est passé, le dénouement de l'histoire qu'on retrouve dans ce livre. Et suite à cette histoire, les championnats du monde de sauna ont été définitivement annulés. Parce que ça se finit dramatiquement.
Et du coup, moi, c'est vrai que quand je l'ai lu, je sais pas comment tu l'as vécu, mais tu lis cette histoire qui est plutôt drôle, c'est vrai, ça se finit dramatiquement. Et après, t'as ce texte-là qui te dit, mais en fait, c'est vrai.
C'est
et moi,
je l'ai
vécu comme un coup de poing, quoi. Vraiment, j'ai été choquée, quoi.
Si les personnages sont complètement inventés, de toute façon, tu peux en rire, quoi. Si l'auteur doit sûrement vouloir qu'on en rie, quoi.
Oui,
même s'il y a une histoire vraie.
Et c'est vrai que c'est étonnant, on finit cette histoire, on se dit très bon livre. Alors c'est des phrases, c'est une écriture comme je les aime, un peu à l'américaine, des phrases assez courtes, on part pas dans des envolées lyriques, c'est vraiment concis, clair, drôle.
Net et efficace.
Et au final, quand on voit que la finalité de l'histoire est une histoire vraie, donc bien sûr, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va voir sur Internet pour se dire, mais est-ce que c'est vraiment vrai ? On tape championnat du monde de sauna 2010 à Heinola, on se dit on doit être le seul à cette heure-ci de la soirée.
Ouais. Ça c'est récent, 2010.
Et il y a tout un tas d'articles et de reportages et de vidéos.
Il y a des photos où on voit ces deux concurrents qui correspondent complètement à la description qu'en fait l'auteur physiquement.
Oui, mais après ils n'ont pas les mêmes professions, ils ne sont pas les mêmes personnes.
Ouais, mais du coup c'est vrai que c'est assez choquant quand même, tu vois, parce que c'est vrai que le réflexe à la fin du livre c'est quand tu dis c'est vrai, on va voir sur internet et en fait tu les vois tes personnages et du coup ça fait un petit choc.
La réalité, la fiction. Oui.
T'es un peu voyeur finalement.
Ah mais tout à fait. Alors ça c'est sûr, mais je sais pas qui pourrait s'empêcher d'aller regarder du coup, franchement.
Ne serait-ce que pour vérifier que ce fait divers ait vraiment existé, parce qu'on se pose une question. On vit avec eux pendant, je sais pas, 3-4 heures de lecture. Et donc, après, on va vérifier que ces 3-4 heures de lecture, suite à ce que nous dit l'auteur, sont réellement un fait divers et c'en est un. Ça n'empêche pas, Mais on ne se morfond pas après avoir lu ce livre en se disant oh, mince, ils sont vraiment descendés, c'est vraiment existé parce qu'on comprend bien que les personnages ont été créés de toutes parts.
Mais ça apporte une autre tournure
par exemple,
à la fin du livre.
Là, le personnage qui n'a rien à perdre et qui veut gagner, par exemple, sa femme partie, machin. C'est vrai aussi ou pareil, c'est inventé?
Je sais pas. Par contre, c'est bien ancien russe.
C'est une bonne idée, ça, de dire, voilà, il a rien à perdre, il va tout faire pour gagner. Mais est-ce
c'est un ancien russe de l'armée. Alors, sur les faits divers que j'ai lus, il avait perdu l'an dernier contre ce Finlandais. C'était pas depuis 3 ans.
D'accord.
Voilà, l'auteur a insisté en disant.
Donc, il a modifié des choses, mais on saura jamais, ses motivations, quoi.
J'ai pas cherché plus loin, je t'avouerai. Ouais. Du moment que j'ai vu que c'était vrai, je suis tombé directement sur une photo, qui relate la fin de l'histoire, assez choquante d'ailleurs, sur internet. Il a pris une photo des deux, en me rendant compte que c'était une réelle description physique des personnages. Je me suis arrêté là, je suis pas allé voir plus loin.
D'accord.
J'ai juste lu que oui, le personnage de 60 ans était bien un ancien personnage de l'armée russe. Je sais pas plus. En tout cas, voilà, pour livre de vacances d'hiver à prendre au ski, mais n'hésitez pas parce que ça se lit vite. C'est assez drôle et c'est très intéressant, c'est une super bonne idée.
Oui, c'est un bon livre.
Ça a l'air chouette.
Allez, Pauline, on va arrêter le calvaire. On va te laisser présenter ton deuxième livre et après, promis, tu peux te moucher.
On a le temps pour ceux des autres après, parce que le mien, il vaut pas forcément le coup.
D'accord. Alors, Héloïse, toi, ça vaut le coup. Dis-moi ton second livre.
Alors moi, comme vous le savez, je suis une grande fan de Cécile Coulon. J'en avais parlé il y a quelques émissions. J'avais parlé de son dernier roman, Le cœur du pélican. Et voici donc le tout récent, le tout dernier que j'attendais depuis 2 ans et qui n'est pas du tout une déception mais qui est une retrouvaille assez magique avec la prose furieuse de cette jeune femme. Et donc c'est vraiment pareil, un gros coup de cœur, tout comme le cœur du pélican, c'est quelque chose que j'ai absolument adoré. Donc ça s'appelle 3 saisons d'orage, c'est toujours chez Viviane Ami. Et donc ça se déroule dans un petit coin de campagne assez perdu vers Saint-Étienne, c'est un village appelé Les Fontaines. Derrière les immenses falaises des Trois Gueules. Les Trois Gueules, c'est falaises qui sont à la fois protectrices et menaçantes, imprévisibles et brutes comme le sont les éléments de la nature. Je vais juste vous lire la description qu'elle fait du village. Les Fontaines. Une pierre cassée au milieu d'un pays qui s'en fiche. Un morceau du monde qui dérive, porté par les vents et les orages. Une île au milieu d'une terre abrupte. Voilà.
Ça donne assez bien l'impression de...
Oui, en quelques mots, de toute façon, elle est très incisive. Elle arrive à dégager un sentiment, une émotion à travers quelques phrases. Moi, je suis très admirative de Cécile Coulon.
Tu en avais parlé déjà dans cette émission ?
Oui, j'avais parlé du cœur du pélican, qui était l'histoire d'un coureur. Voilà, c'était un gros coup de cœur aussi.
Je ne m'en rappelle plus.
Donc voilà, donc les trois orages, c'est l'histoire de...
On a perdu Valérie.
Non, je suis là, je suis là.
Ah, pardon.
C'est l'histoire de 2 familles, donc dans ce petit village des Fontaines. La famille d'André, qui est le premier médecin à avoir osé s'installer aux Fontaines, de son fils Bénédicte, qui va reprendre le cabinet, et de sa petite fille Bérangère, qui est forte, indépendante, et qui sait absolument ce qu'elle veut dans la vie. Ensuite, il y a la famille de Maxime, cette famille qui a toujours vécu aux Fontaines, qui est une famille de paysans qui est admirée de tous, dont la façon dont elle traite ses bêtes, la qualité du lait, etc. Il a plusieurs garçons, les aînés qui sont de vraies têtes de mule, qui sont vraiment des petits cons, pour ne pas le dire. Et Valère, qui est un peu l'enfant modèle au milieu de tout ça, qui est bien bâti, qui est raisonné et qui un jour reprendra la ferme. C'est sûr, lui aussi, comme Bérangère, il sait ce qu'il veut dans la vie. Voilà. Et donc, Les Fontaines, c'est le théâtre de l'ambition, de l'orgueil, des faiblesses de ces hommes. Dans ce milieu où la nature ne pardonne rien, où elle peut donner, mais où elle peut aussi reprendre. Et c'est ce petit théâtre-là des ambitions, de l'orgueil, des hommes vraiment dans leur... Des hommes vraiment, quoi. Dans leur nature pleine et entière.
Comme et donc... moi, quoi.
L'homme brut, c'est un chiffre.
L'homme brut. Avec donc, un grand H. L'homme.
C'est l'histoire de leur vie quotidienne, de leurs préoccupations, de leur amour, de leur avenir, etc. Donc c'est tout simple, hein. Vraiment, c'est comme une saga familiale tout à fait classique, sauf que celle-ci, elle prend vraiment aux tripes. Et comme d'habitude, chez Cécile Coulon, on est emporté dans un tourbillon vraiment furieux et fort de mots, mêlant l'humour, la tendresse pour ses personnages, mais aussi elle est sans pitié avec eux et sans pitié avec nous, du coup. Et c'est un mélange de tout ça qui fait qu'on attend la fin. Et en même temps, la fin est un peu redoutée parce qu'on n'a pas envie de lâcher le livre. Et voilà, moi, comme d'habitude, ce livre, je l'ai ressenti comme un coup de poing dans un gant de velours. C'est un énorme coup de cœur. C'est magnifique. Et je recommande à toute personne de lire du Cécile Coulon. Et cerise sur le gâteau, Mademoiselle Cécile Coulon, je la reçois à la lorgnette le 19 avril.
Waouh, wow. Voilà, trop bien.
Et j'en suis bien contente.
Elle est du coin
Elle habite à Clermont-Ferrand.
D'accord.
Et elle a mon âge, elle a 26 ans.
Très bien, voilà. Ça. Ah oui, une jeune auteure. C'est son deuxième livre, du coup ?
Non, c'est son dixième.
Son dixième ? Ah oui, il a 26 ans ?
Ouais.
Eh ben, dis donc, il y en a qui n'ont rien à faire. Hein. Il y en a qui ne bossent pas. Hein.
Non, mais c'est super. Je suis vraiment ravie de la rencontrer. Et je pense qu'elle elle parle un peu comme elle écrit. Elle explique, elle est passionnante, quoi. Et je suis ravie qu'on puisse la rencontrer.
Et elle vient te présenter un nouveau livre ou c'est pour...
Alors non, en fait, elle vient parler vraiment de toute son œuvre et ça sera une rencontre, une discussion autour de ça.
Et est-ce que... moi, tu m'en avais parlé pour Le cœur du pélican, ouais. Et celui-là. Est-ce que c'est vraiment les premiers qui ont un plus gros succès ou il y en a d'autres qui ont bien marché aussi, qui ont eu des prix, des trucs comme ça?
Alors, il y a Le cœur du pélican qui, ça a vraiment commencé avec sa notoriété. Elle a eu un prix pour ça. Et donc, c'est là où elle a vraiment commencé à être connue. Et là, Les trois saisons d'orage, effectivement, elle a beaucoup de bonnes critiques, Les Inrocs, Libération. Enfin, on en parle, on commence à en parler vraiment beaucoup. Ouais. Ouais, tout à fait. Okay. Et François Bunel de la Grande Librairie est vraiment fan aussi depuis quelques temps de Cécile Coulon. Donc il l'a invité pour pas mal de ses précédents romans.
Elle a un tatouage en forme de pic sur le sein gauche.
Je ne sais pas.
Je te le dis. Je suis allée voir.
Tu es allée voir une photo, mais elle est toute mimi en plus.
Elle est très mignonne.
Tu irais la voir à la lorgnette.
Bien sûr que j'irai la voir à la lorgnette. Elle est restée chez la même maison d'édition depuis cette année.
Oui, elle est fidèle à Viviane Ami. Il y a Viviane Ami qui l'a découverte et elle reste fidèle à Viviane Ami.
Super. Merci beaucoup, Héloïse. Trois saisons d'orage à Saint-Étienne.
Aux fontaines.
Ok, merci Valérie. Toi, tu as dit tout en off, les gens n'ont pas entendu, tu as un demi-livre à présenter, c'est ça ?
Non, c'est parce qu'il est court.
Ah, c'est qu'il est court.
C'est un demi-livre, non, c'est un livre qui en vaut deux. Mais...
Donc tu as, Pauline, tu auras le temps de présenter ton autre livre, quoi qu'il arrive.
C'est rigolo parce que sans savoir ce dont on va parler, tu as fait un livre un peu glauque, un livre heureux, un livre un peu glauque, un livre heureux, quasiment.
Non, tout est calculé, ouais. Valérie.
Non, mais sans savoir, c'est super que tu arrives à faire ça.
Le professionnalisme de la radio.
Et moi, c'est avec, de nouveau, un livre un peu sombre et un gros coup de cœur aussi, donc qui s'appelle Heimska, la stupidité de Eirikur Horn Nordal.
Oula, ce serait pas islandais.
Ça sent l'Islande. Again
and again. Alors, comment un pays de 30 habitants, chaque semaine, on présente un livre?
En fait, il y a deux écrivains et on présente tous leurs livres.
Ah,
parce qu'on aime l'Islande.
Non, mais je vous avais dit qu'un habitant sur deux avait écrit au moins un livre dans sa vie en Islande.
Tu nous l'avais dit la fois, on avait présenté Kirkur Vailarskurstuf.
C'est incroyable.
Ces Islandais, alors. Ils nous surprendront toujours.
Ouais.
Non, c'est vraiment... Et là, Eirikur Horn Nordal, pardon, on en avait parlé, enfin, Héloïse nous avait présenté son livre qui s'appelait Ilska le mal, sur la rentrée littéraire de septembre 2016, où on rencontrait, on rentrait dans l'histoire d'un couple où une des protagonistes, bien sous tout rapport, allait découvrir... une espèce de relation, enfin créer une relation avec son opposé, flirter avec un groupuscule d'extrême droite. Enfin, c'est un livre très dérangeant, mais passionnant. Moi, je l'avais lu après et c'était vraiment un coup de cœur. Et là, le risque, quand tu relis un second livre du même auteur, enfin, c'est son deuxième livre qui est traduit en France, mais peut-être son deuxième livre tout court.
Son deuxième livre, oui, effectivement.
Voilà. Il a été le premier, ouais.
Ouais. Et le risque, c'est d'être déçu. Ben, en fait, pas du tout. Déjà, parce que c'est un plaisir de retourner en Islande, sauf que ce coup-ci, on est à Ísafjörður. C'est un petit village qui existe vraiment. Je vous invite à aller sur Internet, regarder les photos, c'est magnifique. Et de nouveau.
Après, elle nous dit, c'est dérangeant quand même d'aller voir sur Internet après avoir lu le livre si l'histoire est vraie.
Mais parce que moi, c'est pas vrai. Mais l'histoire va être dérangeante aussi. Donc là, on découvre. Alors, c'est pas un couple, mais c'est un ex-couple. C'est l'histoire de Aki et Lenita, qui semblent en fait faire un concours, être en lice pour le concours de la stupidité, peut-être d'où le titre, et de la bassesse de l'humanité. En fait, en réalité, on se rend compte que non, ils sont ni stupides, ni débiles, ils vivent juste avec leur temps. Et ce temps, c'est ce futur qui est si proche à nous, et c'est ce qui va nous chatouiller pendant tout le livre et nous faire tout sauter, parce que Parce que ce livre, c'est pas le futur loin, c'est demain. C'est demain et ça pourrait être nous. Alors peut-être pas nous, les Aki et les Nita, mais nous, leurs voisins, leurs cousins, leurs frères. Et en fait, eux deux sont séparés depuis 3 ans, au début du livre. Mais donc ils vivent dans la même Islande qui aujourd'hui est ultra connectée. Enfin aujourd'hui, dans le livre, est ultra connectée. Les caméras, les webcams sont omniprésentes. Elles rendent au public la totalité du moindre mouvement des gens. Donc il y a des caméras dans les toilettes, des caméras dans les chambres à coucher, les caméras dans les cuisines, partout, partout, partout. Donc il y a un système de télésurveillance qui est appelé la surveillance, qui est vraiment partie du quotidien de tous les Islandais et qui est quelque chose qui n'est plus choquant, qui fait partie vraiment des mœurs. Et donc, tous les gens en sont consentants, il n'y a pas de révolte par rapport à ça. Aujourd'hui, si on ne veut pas être connecté, on ne s'inscrit pas sur les réseaux sociaux, point, on n'est pas connecté. Là, dans ce futur proche, tout le monde, plus ou moins, est consentant et est ultra connecté. Et donc, notre ex-couple, donc Aki et Lenita, sont séparés et ne communiquent que par l'envoi de POC. Alors, pour ceux qui ont compris ce qu'était un POC...
Explique-nous, explique aux auditeurs.
Pourtant, je suis inscrite sur Facebook et sur d'autres réseaux sociaux. Je sais qu'il y a un bouton POC. J'ai l'impression que quand tu appuies sur POC, l'autre personne a dit « Hey, Valérie vous envoie un POC ». Mais ce que ça fait, j'en ai aucune idée.
C'est démodé, le POC, de toute façon.
Ah oui, mais ça n'existe plus, le POC.
Elga, t'as raison. Mais ça ne s'utilise plus trop. Mais
c'est genre pour dire « Salut, je t'aime bien » ou un truc comme
non,
ça, non ?
Je pense à toi.
Je pense à toi.
Et après, il y a eu des petites dérives, genre « Si tu repoques, si tu re-repoques et compagnie, ça veut dire d'autres trucs et tout. » Mais ça l'a un peu moins dans le lien.
Ça, j'ai jamais démodé. Su parce que j'ai repoqué plein de fois. Mais
il fallait faire attention à qui, Ludo, en fait.
Ah ouais, mais c'est pour ça qu'après, j'avais des gens qui...
Le Brésilien en bas de chez toi.
Mais maintenant, ça ne fait plus trop, le POC. Je pense que ça existe toujours, mais ça, la mode est un peu passée. Quoi.
N'oubliez pas, si vous voulez poker ce soir, espace événement Georges Frêche de 18h à 18h30 sur le parking.
Prenez vos patins.
Pour les patins.
Pour les patins.
Donc voilà, donc eux ils communiquent avec des POC, mais à ces POC ils rajoutent chaque fois les vidéos porno de leurs extases où chacun se met à nu. Donc là c'est vraiment nu dans tous les sens du terme. Voilà, et là donc en fait ils se vengent l'un l'autre, et c'est à celui qui... Papa, coupe la radio s'il te plaît. Donc c'est à celui qui baisera le plus, celui qui aura le plus d'amants, celui qui... Voilà, dans le but de faire du mal à l'autre. Parce qu'en fait, donc au départ, on découvre qu'au départ de l'histoire, donc ce couple, c'était deux écrivains qui étaient... prolifique et très fusionnel. Et en fait, lors de leur dernière écriture de livre, bien qu'ils ne soient pas physiquement à côté, ils ont tellement fusionné leurs idées, puis ils étaient tellement identiques qu'ils ont réussi à écrire le même livre. C'est-à-dire qu'ils ont chacun deux maisons d'édition différentes, mais ils sortent deux livres qui racontent la même histoire. Et surtout, le truc qui est fou, c'est que les livres portent le même titre et les livres s'appellent Ahmed. Et donc racontent une histoire, donc je ne peux pas vous dévoiler, sinon ça casserait un peu la suite du livre. Mais cette écriture de ce livre, en fait, tous les deux, ils s'échangent leurs manuscrits. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, le livre qui est juste à l'état de...
Oui, un manuscrit.
Ouais, le manuscrit, voilà. Ils se l'échangent avant de les donner aux maisons d'édition. Et ils découvrent, en fait, le même titre et la même histoire. Alors, avec des intrigues un peu différentes, mais c'est quand même le même fond.
Je trouve ça assez beau, d'Ahmed. Du coup.
Ça pourrait être beau, sauf qu'ils s'en veulent l'un l'autre de s'être plagiés. Alors que d'habitude, ils s'échangent des choses, mais non pas pour être productifs, mais pour échanger, comme tu vas échanger avec quelqu'un en disant « Tiens, qu'est-ce que t'en penses de ça ?» Et donc là, ils ont été trop loin. Donc, plutôt que de s'expliquer, d'essayer de comprendre pourquoi ils ont écrit le même livre, ils se déchirent sans plus d'explications. Mais ça, l'auteur s'arrête pas forcément dessus. Mais ce livre va sortir et va enchaîner va avoir beaucoup de conséquences. Donc on suit en deux parties. Une partie, c'est vraiment leurs exploits, comment se faire du mal le plus possible, grâce à l'envoi de ces POC et autres. Mais aussi comment, d'un autre côté, c'est comment cette machine, cette surveillance va inspirer les Islandais. Il va se créer un petit groupuscule révolutionnaire qui lui dit stop, faut qu'on arrête ça. Mais d'un autre côté, ils ont tellement été habitués à être observés tout le temps qu'ils stressent à l'idée. Il y a de plus en plus de coupures électriques, donc ils se retrouvent des fois pendant plus de 5 minutes sans électricité. Vous vous rendez pas compte? Et en fait, ils ont la peur de ne plus être vus, de ne plus être... voilà. Et c'est ce livre, en fait, qui est hyper dérangeant parce que on se rend compte qu'on est à deux doigts, en fait. On est à deux doigts de pouvoir...
Deux pouces, tu veux dire.
On est à 2 pouces de pouvoir vivre ça. Et du coup, j'ai lu pas mal de critiques sur ce livre. Et il y a un mot qui revenait toujours que je ne connaissais pas, qui était le mot dystopie.
Ce que j'allais te demander, voilà, en fait. Est-ce que c'est de la dystopie ?
Complètement. Voilà. Complètement. Et quand
peut-on expliquer à nos auditeurs, tout le monde ne sait pas ce que c'est la dystopie ?
La dystopie, en fait, c'est un genre littéraire, ou en tout cas...
qui se rapproche de la science-fiction.
Un petit peu. En fait, c'est tu imagines un monde où, à un moment, quelque chose dans l'humanité a changé et il y a toujours cet aspect un peu de surveillance, de le contrôle de l'État ou d'un groupe quelconque qui
Orwell,
du coup,
ou...
a mis sa main sur toute la population.
D'accord.
Et du coup, ils sont enfermés dans un schéma et généralement, tu as des gens qui vont essayer de contrer ce truc.
Ça faisait un peu 1980.
On a déjà présenté beaucoup de livres de dystopie dans les émissions plutôt de science-fiction.
Ouais. Là, c'est un peu 1984 d'Orwell, mais façon de même, là.
Façon Facebook, quoi.
Ouais, ouais, vraiment. Et puis, on sent que ça peut arriver. Et la petite révolution qui va avoir lieu, elle est mal préparée, elle est trop petite, elle n'a pas d'envergure. Donc, elle ne s'impose pas. Mais c'est très bien écrit, mais c'est super... ça fait peur aussi en même temps, parce que ça nous montre qu'est-ce qu'on peut vite devenir, en fait. Voilà.
Mais qu'est-ce que ce livre ? Je vois la pochette, là, devant moi, on dirait...
C'est une épreuve non corrigée.
C'est une épreuve non corrigée, donc j'ai le livre avec les fautes d'orthographe, avec...
Est-ce que tu les as corrigées ?
Alors, je suis maniaque sur les fautes d'orthographe, mais pas à ce point-là. Par contre, il y avait 2-3 erreurs de traduction, mais très légères.
Voilà. Ça a dû être modifié après.
Oui, j'espère. Ben, cela, c'est, voilà, c'est
une... Parce qu'il y a des services de presse et avant, il y a cette étape-là des épreuves non corrigées qui peuvent être envoyées au libraire aussi.
D'accord.
Des photocopies.
On va les prendre en photo parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait pour mettre sur la page Facebook.
Peut-être que le Aimska la stupidité, on prendra la photo depuis la librairie. Si hein, parce que là, la...
c'est sexy aussi. Hein.
Bah, donc la pochette.
Mais après, c'est vrai que cette émission, on n'a eu que des coups de cœur.
Oui.
Ah, vraiment, ouais.
Moi, énorme, ouais.
Tu as fini, Valérie ?
Oui, oui, pourtant, c'est un style assez sombre, mais qui est superbe à lire. C'est court, par contre, c'est très court par rapport à Ilska, pour ceux qui ont lu Ilska.
Ouais.
Là, c'est très court.
Mais ça a l'air de ressembler à Ilska, quand même. Un peu dans les thèmes de l'auteur.
Un peu d'humour, tu vois,
la
côté
grande
un
histoire
peu, ouais.
qui rencontre aussi un couple, quoi, ça a l'air de ressembler.
Alors, tu parlais de 1984, on ne pourra pas présenter 1981 de Mazarine Pinjot.
Mais comme il n'y a eu que des coups de cœur et que ça n'en était pas...
Que ça n'en est pas forcément, hein, c'est pas bien
voilà,
grave.
Voilà, on ne va pas le présenter. C'était
82, ça se passe en 82, donc c'était bien vu.
Et oui. C'est Théa, le titre du livre. Voilà. Ben, on ne va pas le présenter, on laissera à nos auditeurs le soin de l'acheter, de se faire une idée. Ou de ne pas l'acheter, et plutôt d'acheter nos livres qu'on vous a présentés aujourd'hui.
C'est peut-être mieux.
Qui eux sont bien.
Allez, pour cause de vacances, on se retrouve dans 3 semaines et pas dans 2 semaines avec un thème sympa, Héloïse.
Oui, les gros méchants dans les livres jeunesse.
Voilà, si vous avez des enfants qui sont nés en mars comme les miens, n'hésitez pas à écouter l'émission dans 3 semaines pour leur offrir des cadeaux. C'est toujours plaisant. Allez, merci les filles. Tu seras là aussi, Helga, dans 3 semaines ?
Peut-être. Ah. Peut-être que vous me verrez.
Suspense, on verra.
Fait du teasing.
Allez, n'oubliez pas, tous devant l'espace événement cet après-midi, ce soir, à 18h, 18h30 pour les patins. Valérie vous attend. Ciao les filles, merci.
Salut.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein dans la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire. Là.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.